Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un de nos auditeurs, Axel, a lu la biographie qu'Antoine Marès vient de consacrer au président Édouard Benesch, si méconnu en France, dit-il, et pourtant si important dans l'histoire de l'Europe. Franck Ferrand a confié son biographe au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Édouard Benesch a été, en 1948, la grande victime du coup de Prague, on peut le dire. Victime consentante ou pas, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Qui se souvient de tout cela aujourd'hui en France ? À l'époque, l'Europe centrale, on disait les pays de l'Est, était coupée de l'Ouest par le fameux « rideau de fer », selon l'expression de Churchill dans son discours de Fulton. Et rares étaient ceux qui, en France, s'intéressaient à ce président tchèque. Ils avaient tort, vous allez pouvoir en juger.
Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez Franck à la question de Sylvain sur les origines du service militaire.
Oui, il se trouve qu'un de mes meilleurs amis au service militaire s'appelait justement Sylvain. Alors si c'est lui qui nous écrit, je suis heureux de le saluer. En tout cas, ce sujet est d'actualité. Pour le moment, je vous propose d'aller faire un tour dans une des plus belles villes d'Europe, ma préférée peut-être. Je veux parler de Prague.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Allez, un souvenir personnel pour commencer. On était au tout début des années 1990. Le fameux rideau de fer, justement, venait de tomber. C'était l'effondrement de l'Empire soviétique et nous nous précipitions, jeunes que nous étions, dans tous ces pays qui, jusqu'alors, avaient été si difficiles, si fermés à la visite. Et donc, on en profitait, on découvrait ces pays qui avaient conservé tout leur suc, tout leur arôme, si je puis dire, en tout cas dans les centres-villes et dans les villes historiques. Ce n'était pas le cas de certaines banlieues, bien entendu, et de certaines zones plus industrielles. Mais en tout cas, Prague était restée la Prague du 19e siècle, celle du début du 20e, la Prague de Kafka, la Prague de l'Empire austro-hongrois. Il faut vous dire que cette ville avait été sous la domination des Habsbourg depuis 1526. Elle avait beaucoup rayonné à partir du 16e siècle, lorsque Rodolphe de Habsbourg avait choisi d'y résider définitivement. C'était ça en 1582. Il avait abandonné Vienne pour Prague, vous imaginez. Prague était devenue la capitale de l'Empire, donc capitale des arts, des sciences, de la musique. C'est la capitale notamment où le fameux peintre Archimboldo avait fait ses portraits à base de fruits, de végétaux, vous savez, ou d'objets. Il y avait dans cette Prague de Rodolphe II un bouillonnement tout à fait extraordinaire. C'était aussi, nous l'oublions pas, il faut aller dans la ruelle d'or, hein, c'était la capitale des alchimistes, bien entendu. Et puis, au XVIIe siècle, au XVIIIe, on avait vu la ville s'enrichir de monuments magnifiques, à Staré Mesto, à Palastrana, le palais Kinski, bien entendu, le château de l'autre côté de la Moldau, à Hrachany. Je dois faire de graves erreurs dans la prononciation de tous ces noms, mais je suis ravi parce qu'Antoine Marès tout à l'heure va nous dire comment tout ça se prononce, bien entendu. Et puis, il y a cette place centrale de la ville tout à fait extraordinaire qui domine de haut le pont Saint-Charles. Vous savez, ce pont Saint-Charles qu'on voit toujours, le pont Charles, pardon, qu'on voit toujours avec ses immenses statues comme ça, tout à fait extraordinaires, très baroques et souvent embrumées du reste. Dominant tout cela, cette place absolument extraordinaire avec l'église Saint-Nicolas, avec ses façades magnifiques. Et je me rappelle être entré là comme on entrerait véritablement dans le passé. Vous savez, dans une vie, il n'y a pas tellement de ces moments où d'un seul coup, vous avez le sentiment de ne plus faire qu'un avec le décor, avec ce qui vous entoure. Eh bien, c'est ce qui m'était arrivé ce soir-là. C'est un souvenir inoubliable et c'est vous dire la force de Prague et sa capacité d'envoûtement, même si, et c'est ce que nous disions juste avant que ne commence cette émission, même si évidemment depuis quelques années maintenant, tout ça a tendance à s'estomper un peu. Le tourisme est passé par là et c'est vrai qu'il y a un petit côté Disneyland maintenant à Prague, malheureusement. Mais ça reviendra peut-être. En tout cas, la ville a été tout à fait extraordinaire. J'ai cité Franz Kafka tout à l'heure, il faudrait en citer d'autres, mais voyez cette espèce de bouillon de culture extraordinaire à Prague. Alors, cette ville de Prague a été un enjeu territorial. Au milieu du XVIIIe siècle, lors de la bataille de Prague, pendant la guerre de 7 ans, les Prussiens n'ont pu s'emparer de la ville, malgré leur victoire sur les Autrichiens et les Russes. Et après l'indépendance de la Tchécoslovaquie, beaucoup plus tard, donc là on est dans la création du nouvel État, avec la paix de Versailles en 1918, Prague est devenue la capitale de ce nouvel État. Hitler l'a envahi en 1939 et c'est l'armée rouge qui en 1945 l'a libéré. Eh bien, dites-vous que notre personnage d'aujourd'hui, cet Édouard Beneš, est le fruit de la Prague européenne, érudite et raffinée, multiculturelle que je viens de vous décrire. Il arrive dans une atmosphère de... Il rentre à Prague, Beneš, en mai 1945, dans une atmosphère d'euphorie, bien entendu. L'armée rouge a libéré, vient juste de libérer Prague. Entre-temps, il y a eu la capitulation de l'Allemagne. Et vous le voilà, cet ancien président de la République, cet homme de 60 ans, il arrive à la gare centrale de Prague, qui pour l'occasion a été décorée, festonnée. C'est un petit homme bien habillé, vêtu d'un veston sombre, d'un pantalon rayé et d'un chapeau. Sa moustache et ses cheveux sont blancs. Il a l'allure d'un petit bourgeois, disons-le, d'un bon bourgeois peut-être, on pourrait le dire. Cet homme n'est autre donc que l'ancien président de la République. Le train présidentiel est accueilli par les officiels au son de la fanfare, suivi de l'hymne officiel et de celui de l'armée rouge. Il ne faut pas oublier ce contexte hein, de libération, mais donc d'occupation par l'armée rouge. Voilà ce que nous dit Antoine Marès. Des enfants remettent un bouquet à l'épouse du président avant que 4 cheminots ne leur présentent, selon l'ancestrale coutume slave, du pain et du sel en signe de bienvenue. Un convoi de 34 véhicules se met en route à travers la capitale jusqu'à la place de la vieille ville. Devant l'accueil enthousiaste de la foule, le président retrouve le sourire. De la gare centrale au château, c'est une longue procession qui passe par la place Venceslas avant de faire halte sur la place de la vieille ville, puis d'emprunter l'avenue nationale, les quais de la vieille ville, où le couple présidentiel réintègre ses appartements. Pourtant, en ce jour de fête, nombreux sont ceux à remarquer à quel point Beneš a changé depuis son départ de Tchécoslovaquie 6 ans plus tôt, lorsque son pays a été démembré par l'Allemagne nazie. Désormais, l'ancien président se déplace avec une canne. Il a l'air assez fatigué. Ceux qui l'observent ainsi ne savent pas que Beneš a eu de nombreux accidents, de nombreux soucis de santé ces dernières années. Une attaque cérébrale, des problèmes digestifs, des problèmes qui peu à peu ont pesé sur son moral au point même d'entraîner une dépression. Il est cardiaque également, il a maintenant un régime avec des obligations très astreignantes, un repos après le déjeuner, etc. Un sommeil nocturne qui doit être prolongé et tout un régime délicat. Voilà l'homme qui rentre à Prague après 6 ans d'absence. Peu importe, il est là, de retour dans son pays, dans sa capitale et sur la place de la vieille ville, il va faire un discours. Cette place est essentielle, hein, c'est le haut lieu du nationalisme tchèque. C'est ce joyau d'architecture renaissance et baroque dont je vous parlais tout à l'heure avec le monument de Jan Hus, hein, le recteur de l'université de Prague au XVe siècle qui avait inspiré la réforme dans ce pays tchèque et qui était mort sur le bûcher en 1415. Eh bien, dans son discours, Beneš essaie de fédérer en quelque sorte toutes ces ondes anciennes et qui lui parlent tellement. « Nous sommes infiniment reconnaissants à Staline, Churchill et Roosevelt pour ce qu'ils ont fait pour l'humanité, dit-il, sans oublier la France et les autres alliés. » Dans les mois qui suivent, Beneš va retrouver les fonctions de président de la République. Il fait adopter les décrets Beneš qui ordonnent l'expropriation et l'expulsion des Allemands des Sudètes et d'une partie des Hongrois de Slovaquie. On va revenir sur cet aspect essentiel de son retour au pouvoir. Mais désormais, et c'est ce qui va peut-être tout changer, Désormais, il doit compter sur le Parti communiste tchécoslovaque. C'est vrai que les troupes soviétiques ont maintenant évacué le pays, mais l'Union soviétique est là. C'est elle qui a libéré le territoire et sa capitale. Dans le cabinet formé le 4 avril 1945, dites-vous que les communistes ne sont pas, non seulement ils ne sont pas absents, mais ils occupent les postes les plus importants. L'intérieur, l'information, l'enseignement, la culture, l'agriculture, le travail, les affaires sociales, le secrétariat d'État aux affaires étrangères. Autant dire qu'une grande partie du gouvernement est maintenant aux mains des communistes. Alors, est-ce que Beneš est gêné par cette situation ? Pas vraiment. A priori, il n'a pas l'air de voir véritablement le danger.
Symphonique La Moldao de Smetana. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à Prague et à Beneš.
Dans un de ses discours, voilà ce que dit Beneš. Notre État sera avant tout un État des Tchèques, des Slovaques et des Ruthènes des Carpates. Et je le répète, dit-il, un État national. Ne resteront avec nous que les Allemands et les Magyars qui ont combattu avec nous contre le nazisme et le fascisme, qui continueront de le faire et qui n'ont jamais trahi la République. La nation, chez nous, aura le dernier mot sur cette question. Ce sera une République dans le cadre des frontières. Seulement côté occidental, on est plus lucide que Beneš qui pense pouvoir travailler avec les communistes, qui sont eux totalement à la solde de Staline à cette époque-là. Il croit encore à la démocratie parlementaire, Beneš. De l'autre côté, enfin quand je dis l'autre côté dans les capitales occidentales, on craint tout simplement une annexion de toute cette partie de l'Europe centrale et bien sûr de la Tchécoslovaquie. Voilà le fameux discours prononcé par Churchill à Fulton le 5 mars 1946. « De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, dit Churchill, un rideau de fer est descendu à travers le continent. Derrière cette ligne se trouvent toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest et Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent se trouvent désormais dans ce que je dois appeler la sphère soviétique et sont toutes soumises, sous une forme ou sous une autre, non seulement à l'influence soviétique, mais aussi à un degré très élevé et dans beaucoup de cas à un degré croissant au contrôle de Moscou. » Ah ça, vous savez que Churchill ne se paie pas de mots généralement, eh bien il a osé dire tout ça. On est en début, au printemps 1946, et c'est vrai que assez vite, au sein même du gouvernement, de l'État tchèque, on va voir croître les tensions, apparaître dans un premier temps, puis croître les tensions entre Beneš et les communistes. Pour autant, voit-il véritablement le danger, Beneš ? C'est la question que je poserai tout à l'heure à notre invité. Un an passe depuis le retour de Beneš à Prague. Nous sommes maintenant en mai 46. Des élections sont organisées. Vous dire que le président est de plus en plus fatigué. Il fait des séjours de plus en plus longs dans ses résidences. Il a mis un terme à ses grandes tournées. Sa tension, l'hypertension, empire chaque jour. On lui préconise au moins 2 jours de repos par semaine. Vous voyez que ce ne sont pas évidemment de bonnes conditions pour diriger un État, surtout lorsque l'on voit le gouvernement vous échapper d'une certaine manière. Beneš passe peu de temps au château de Prague. Son bureau est situé dans l'aile à droite, quand il est totalement tapissé de livres. Quelques heures après le fameux vote de cette élection de mai 46, le verdict tombe. Le Parti communiste est en tête avec 38% des voix, ce qui fait qu'il arrache 114 sièges sur 300, mais ça ne lui donne pas pour autant la majorité absolue. Le nouveau gouvernement est confié au patron de ce Parti communiste tchécoslovaque, Klement Gottwald. Et c'est ce Gottwald qui désormais va tenir les rênes du pouvoir. Or, il est aux antipodes de Benesch, si on peut dire. Lui a 52 ans, c'est pas un homme de dialogue ni de consensus, c'est le moins qu'on puisse dire. Avant la guerre, il a fait partie de l'équipe du Comintern, vous voyez, il a notamment beaucoup fréquenté un certain Nguyen Ai Quoc, le futur Ho Chi Minh. Dans ce gouvernement Gottwald, on trouve des ministres du Parti Populiste, des sociaux-nationaux, des sociaux-démocrates, deux ministres sans étiquette, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense, hein, non pas d'étiquette, mais néanmoins, les communistes sont très présents et ils sont, et c'est un gouvernement sous direction communiste. Benesch, de son côté, est quand même réélu président de la République. Et nous nous posons de plus en plus la question, voit-il le danger de ce parti communiste qui est en train de prendre le pouvoir, tout simplement, dans la Tchécoslovaquie de l'époque ? Au début de 1947, le gouvernement tchécoslovaque va répondre favorablement à l'invitation de se rendre à la conférence préparatoire de Paris autour du plan du fameux secrétaire d'État américain Marshall. Vous savez, le plan Marshall pour relancer l'Europe. Le gouvernement tchécoslovaque était prêt à marcher, si je puis dire, et puis au dernier moment, il se retire sur ordre de Moscou. En décembre 1947, le ministre des Affaires étrangères, Yann Masaryk, qui n'est pas communiste lui donc, écrit « J'espère que nous pourrons tenir grâce au prestige du président Benesch. Mais si la crise internationale devait se prolonger au-delà, j'ai de sérieuses inquiétudes sur les possibilités de maintenir un régime conforme à nos traditions nationales et aux aspirations profondes de notre peuple. » Cette même année 1947, sachez que Benesch est quand même victime de deux nouvelles attaques cérébrales. Il a perdu beaucoup de poids, on voit son élocution évidemment se détériorer, sa mobilité aussi. Et pendant ce temps-là, le Parti communiste, lui, progresse. Au début de l'année 1948, il peut compter sur 1,5 million de membres. Ils étaient quand même trois fois moins nombreux 2 ans et demi plus tôt, au moment de la libération. Seulement le Parti communiste, même s'il est de plus en plus présent et avec un poids de plus en plus fort, en même temps connaît une certaine baisse de popularité. Oui, puisque maintenant il est aux affaires et il y a ces difficultés économiques qui viennent montrer les limites du parti. Vous avez dans le sein même du gouvernement des partis démocratiques qui espèrent des élections anticipées pour essayer de reprendre un peu l'avantage. Le 13 février 1948, le ministre de l'Intérieur, Václav Nosek, qui est communiste, décide de modifier un peu l'organisation de la police. Il y a des ministres qui s'y opposent. Ils sont 12. Comme par hasard, ce sont les ministres qui ne sont pas communistes. Le 17 février, le chef du gouvernement, Gottwald, décide d'aller voir Benesch dans son bureau du château de Prague. Benesch le reçoit, il veut toujours, lui, d'un gouvernement de coalition. Il n'admet pas l'idée d'un cabinet sans communiste. Il sait très bien, Benesch, que le poids du Parti communiste est tel à l'époque qu'un cabinet sans communiste signifierait un cabinet qui, de toute façon, n'irait sans doute pas très loin. Dans la soirée, un communiqué révèle au pays l'existence de ce qu'il faut bien appeler une crise politique. Et la radio, n'oublions pas, la radio est contrôlée par les communistes. Le ministre de l'Information est un communiste. Et donc, ils ont tout intérêt, ces communistes, à parler d'une crise et à révéler à l'opinion cette crise politique. Le lendemain, 18 février, les leaders socialistes nationaux demandent audience au président de la République pour l'informer de leur plan. Vous allez le voir, ce plan, dans un instant. Voilà ce que leur répond Benesch. Restez ferme, surtout ne vous laissez pas intimider.
Pour agir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions, chers auditeurs. Il y a la page Facebook de l'émission, les mails europe1.fr ou encore via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur le coup de Prague.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, en février 1948 et au coup de Prague.
Alors, on est maintenant le 20 février. Il fait d'ailleurs très froid, hein, il faut dire, en cet hiver 48. La température est tombée à moins 15 degrés. Ça joue un rôle, ça. On se croirait un peu dans certaines bandes dessinées de Bilal, vous savez, avec cette espèce de climat qui va marquer ensuite, qui va symboliser, si je puis dire, l'extension du bloc soviétique sur l'ensemble de, surtout l'est de l'Europe. Bref, Ce 20 février 1948, il y a donc de fortes dissensions au sein du gouvernement Gottwald du fait de la nomination au sein de la police d'un certain nombre de personnalités trop proches du Parti communiste. Alors à 10h a lieu une scène assez surréaliste. Vous avez le Conseil des ministres, donc vous avez là les ministres communistes, les sociaux-démocrates et le ministre de la Défense qui sont présents. Et puis, à l'étage au-dessus, vous avez les 12 ministres démissionnaires qui se sont réunis de leur côté et qui vont faire parvenir à Gottwald un billet disant qu'ils descendront au Conseil dès qu'on leur aura annoncé que le ministre Nosek accepte de se soumettre à la décision majoritaire du 13 février sur l'arrêt des mutations politiques dans la police. En même temps, on n'est pas dans un gouvernement collégial, vous me direz. Gottwald répond par un autre billet. Nosek est là, dit-il, il est prêt à vous répondre. Et là, les 12 ministres vont transmettre une nouvelle réponse. Ils ne veulent pas une explication, ils veulent un engagement. Gottwald est très irrité et il quitte la séance. À 16h, l'annonce est officielle. Les sociaux nationaux quittent le gouvernement, suivis par les démocrates slovaques et assez vite par les populistes. Ne reste donc plus avec les communistes que les sociaux-démocrates, et puis bien sûr tous ceux qui faisaient partie jusque-là de leur soutien. Ces sociaux-démocrates, ça va être la grande question. Ils ne veulent pas démissionner tout de suite. Pendant ce temps, les communistes sont en train de faire leurs affaires, si je puis dire. L'occasion est trop belle pour se débarrasser des ministres qu'ils jugent réactionnaires, ennemis de la classe ouvrière. Enfin, vous connaissez toute la phraséologie. Eux ne rêvent que d'une chose, que Benesch accepte les démissions et que le Parti communiste travaille avec les sociaux-démocrates dans un gouvernement sans opposition. Dans la soirée du 20 février, la radio diffuse un appel du Parti communiste au peuple tchécoslovaque. Des instructions sont données pour organiser le lendemain l'écoute collective du discours de Klement Gottwald. On commence à armer des milices ouvrières dans les usines. C'est bien un coup d'État qui est en train de se préparer. Le 21 février, toujours ce froid glacial avec une neige qui tombe à gros flocons. Ça n'empêche pas énormément d'ouvriers, de syndicalistes, etc. de se rassembler pour une grande manifestation sur la place de la vieille ville, donc dans le centre de Prague. Après plusieurs minutes, on peut dire que la place est noire de monde et c'est là que Gottwald va prendre la parole. Il choisit le balcon du palais Kinsky, somptueux édifice du XVIIIe siècle, qui aujourd'hui est un très beau musée. Les températures ne sont pas remontées depuis le matin. Gottwald porte une toque noire. Son propos est clair. Il est offensif. Les communistes ont le contrôle de la police. Ils le gardent. Et son discours se termine par ces mots. « Vive la fidèle alliance tchéco-soviétique, garantie de notre liberté et de notre indépendance. » C'est ce qui s'appelle une oxymore. Pendant ce temps, isolé dans son bureau du château de Prague, Benesch est accablé. Il écoute à la radio la retransmission du discours de Gottwald. Il a multiplié les réunions pendant la journée. Et vers 10h, deux représentants sociaux-démocrates demandent audience. Ils viennent de prendre leur décision. Il n'y aura pas de démission. En clair, le gouvernement est toujours en place, dominé par les communistes et seulement privé des populistes et des sociaux-nationaux. Benesch part à ce moment-là pour le château de Lani, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Prague. C'est la résidence d'été, si vous voulez, c'est la résidence au champ des présidents de la République. Il va y passer le week-end pour réfléchir. Il refuse la démission des 12 ministres. Est-ce qu'il a compris que le danger est maintenant imminent ? Le dimanche 22, les socialistes nationaux qui ont choisi de démissionner se préparent à combattre. Ils ont avec eux 20 000 sokols. C'est une association de gymnastes, une association patriotique. Ce sont des gens prêts à se battre, seulement il faut des armes. Il ne faut pas quand même oublier que le ministre Svoboda est réputé pour, qui dirige l'armée, est réputé pour être très proche des communistes. Les communistes, de leur côté, ont des informateurs. Ils contrôlent la police. Ils vont lancer des mandats d'arrêt contre un certain nombre de personnalités socialistes nationales. Et à Brno, à Brune, comme nous disons nous, les comités d'entreprise de la manufacture d'armes chargent en pleine nuit 10 000 fusils et 20 000 mitraillettes dans des camions pour les milices ouvrières de Prague. Autant vous dire que les communistes n'ont pas l'intention du tout de se laisser faire sans réagir. Le lundi 23 février, Prague, toujours sous la neige et la glace, Prague se réveille Marseille sous le contrôle des communistes. Les ministres démissionnaires qui arrivent à leur bureau sont expulsés. Les ouvriers ne veulent pas imprimer et distribuer des journaux qu'ils jugent réactionnaires. Et l'on se dit, là on peut dire que le monde entier a les yeux rivés sur le château de Prague, sur le château de Lannion plutôt, pardon, et sur Bénèche. Or Bénèche ne prend aucune décision. Pendant ce temps, Gottwald constitue un nouveau cabinet avec des communistes, avec un certain nombre de ralliés de dernière minute. C'est souvent comme ça que ça se passe. Le 25 février, à 11h, Gottwald va proposer un nouveau gouvernement à Bénèche. Bonjour Antoine Marès. Alors nous allons voir avec vous jusqu'où est allé ce qu'on appelle le coup de Prague, après quoi nous reviendrons sur l'ensemble de la vie du personnage Bénèche.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est le coup de Prague qui est au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Antoine Marès, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur du Centre d'Histoire de l'Europe Centrale, auteur entre autres de l'ouvrage Édouard Bénèche, un drame entre Hitler et Staline aux éditions Perrin.
Alors, ce coup de Prague a eu lieu en février 1948, le 25 février. Il est 16h30 à peu près quand Gottwald arrive sur cette place Venceslas, qu'il faut imaginer noire de monde. Il grimpe sur un camion qui lui sert de tribune improvisée. Il hurle à la foule « Camarades, les décrets libérant les démissionnaires et nommant les nouveaux ministres sont signés par Monsieur le Président ». Mais que s'est-il passé? Eh bien oui, c'est vrai, Bénèche a cédé, Bénèche a accepté ses 12 démissions et maintenant le gouvernement qui est en train de se constituer va être un gouvernement purement pur sucre, si je puis dire. C'est le nouveau gouvernement Gottwald. Le 27 février, on voit Bénèche recevoir Gottwald. Il est en habit et il déclare « J'ai longuement réfléchi sur la crise. Je suis arrivé à cette conclusion qu'elle risquait de s'approfondir et d'aboutir à une telle division de la nation tchécoslovaque que celle-ci se serait trouvée plongée dans une confusion générale. Cependant, l'État doit être dirigé et administré. Je souhaite que cette voie soit heureuse pour vous, pour la nation et pour l'État. » Le soir du 27 février, il va quitter le château de Prague, Bénèche, pour aller s'installer dans une résidence à une soixantaine de kilomètres de Prague. C'en est fini, d'une certaine manière, de son influence sur la politique tchécoslovaque, Antoine Marès.
Oui, les événements de février 48 que vous venez de fort bien relater sont en fait le point d'arrivée d'une tragédie personnelle. L'incapacité d'un homme isolé sur lequel on pesait les décisions et qui ne pourra pas faire face à des événements qui le dépassent. Ces événements de février, on les a qualifiés de putsch parfois, d'événements de février tout simplement, dans la terminologie communiste, mais aussi de révolution non sanglante, qui me paraît le terme le plus approprié pour les...
Oui, parce qu'il n'y a pas eu de victime dans cette affaire.
Il n'y a eu effectivement pas de victime.
Quand je dis pas de victime, en tout cas il n'y a pas eu de mort, pour être tout à fait
Absolument.
Précis, parce que des victimes, il y en a
les
sans doute eu.
Oui. C'est la fin donc d'une certaine démocratie, malgré tout, d'un certain pluralisme dont n'ont pas bénéficié d'autres États d'Europe centrale. C'est aussi le début d'un assujettissement total de la Tchécoslovaquie à Moscou, culturellement occidentale, géographiquement centrale. La Tchécoslovaquie devient politiquement orientale.
Voilà, c'est magnifiquement dit.
Absolument. Avec un cortège de brutalités pseudo-judiciaires qui vont toucher des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers, à partir du moment où la stalinisation va, en 1949, accélérer le processus de répression. Alors, pour répondre à la question que vous me posiez concernant fait que Bénèche...
J'allais y venir, mais puisque vous vous la rappelez...
a réalisé ce qui se passait...
Était-il conscient du danger?
Voilà, je répondrai de deux manières. La première, c'est que Bénèche est à la fois un patriote, un diplomate, un démocrate, un pragmatique, quelqu'un qui a des préoccupations sociales et pédagogiques, et que par conséquent, il est très difficile de faire coexister tout cela. Et si on ne prend pas en compte ces différents éléments, on ne comprend pas son attitude, outre le fait, comme vous l'avez souligné, qu'il était déjà profondément affaibli. Le diplomate, c'est celui qui ne veut pas de conflit. Et il ne veut pas de conflit non plus à l'intérieur de son pays. Et c'est la raison principale pour laquelle il cède devant les menaces que Gottwald a proférées devant lui d'une action qui aurait pu être une action sanglante. Benache a
commencé... intéressant cette motivation hein, de la crainte du conflit qui a poussé à travers l'histoire et dans des circonstances tellement différentes tant de chefs d'État parfois à prendre des décisions qu'ils ont pu regretter. Mais pour éviter de faire couler le sang, en quelque sorte, c'est toujours cette espèce d'obsession d'une certaine manière.
En particulier, on y reviendra peut-être, lors des accords de Munich, dont Benesch a été la principale victime. Mais il a un doute sur la position soviétique. Vous vous interrogez tout à l'heure. Et ce doute va être levé par l'attitude des soviétiques vis-à-vis de l'Ukraine subcarpatique, c'est-à-dire la partie orientale du pays, qu'en fait, Moscou va annexer en prétextant une volonté des populations locales de rejoindre l'Ukraine. Benesch avait dit explicitement...
L'Ukraine entièrement soviétique à l'époque,
voilà,
bien sûr.
Qu'il considérait que ce serait un test, et le fait que les autorités tchécoslovaques ne puissent pas véritablement revenir sur ce territoire au moment de la libération par les troupes soviétiques est un indice très intéressant et très alarmant pour Benesch de ce que pourrait être la position soviétique.
Il y a deux questions qui se posent sur le coup de Prague lui-même, avant de revenir à Benesch et à sa situation. D'une certaine manière, est-ce que tout ça était piloté directement depuis Moscou? Ou bien est-ce que c'est le Parti communiste tchécoslovaque qui tout seul a fait sa propre prise de pouvoir, si je puis dire?
Les choses étaient relativement ouvertes. Si vous parlez de 1948, là, il est évident que les décisions ont déjà été prises à Moscou, qu'il y a eu la constitution du Cominform fin septembre 1947, par lequel Moscou a donné un signal fort au Parti communiste qui n'avait pas le monopole du pouvoir, de le prendre. Donc, mais je dirais à la limite que la situation est telle, le noyautage des institutions est tel que les soviétiques n'ont pas besoin d'intervenir directement. Et il y a un moment symbolique quand l'ambassadeur Zorin, l'ambassadeur soviétique, revient à Prague au moment de la crise. On peut y voir une espèce de surveillance des événements, mais il n'y a plus de force à opposer en fait aux communistes.
Il y aurait eu des forces, je parlais de ces gymnastes-là, de ces 20 000 oui, partisans qui étaient prêts à prendre les armes. En fait, c'était théorique.
Ils sont désarmés. Oui. Ils sont désarmés. Les armes sont contrôlées par le général Svoboda, ministre de la Défense, qui n'est pas membre du Parti communiste, mais qui est un sous-marin.
Qui est encore plus communiste que les communistes, d'une certaine manière. Alors, de l'autre côté, du côté des capitales occidentales, on a l'impression qu'on avait fait son deuil depuis bien longtemps de la Tchécoslovaquie. Le fameux discours de Churchill date de 18 mois avant le coup de Prague, le discours de Fulton. Et déjà, on a l'impression que Churchill abandonnait, si je puis dire, les Tchèques à leur sort.
Les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît. Au premier abord, parce que d'abord, les Occidentaux ne sont pas tous sur la même ligne. Les Américains et les Britanniques sont plus radicaux dans la rupture avec l'Union soviétique et plus tôt. En France, par exemple, le président Auriol est un de ceux qui espèrent encore, en 1947, qu'il y aura la possibilité d'une certaine autonomie de la Tchécoslovaquie au centre de l'Europe. On parle beaucoup de l'idée de pont.
Au nom de son européanité, d'une certaine manière.
Absolument. Au nom de sa slavité et de son européanité, la Tchécoslovaquie pouvant faire une espèce de passerelle entre l'Est et l'Ouest. Mais en même temps, Jan Masaryk, que vous avez cité, dit « on sait bien ce qu'il advient des ponts en cas de crise, c'est la première chose qu'on fait sauter ». Et effectivement, la Tchécoslovaquie va sauter parce que Staline n'a plus besoin, à partir de l'automne 1947, pratiquement, de cette vitrine démocratique qu'est encore la Tchécoslovaquie.
Oui, c'est presque devenu superflu d'une certaine manière. Le 27 février, le président Benesch va donc accepter ce nouveau gouvernement intégralement communiste d'une certaine manière, même si tous ses membres ne sont pas nommément membres du parti. Lui s'en va, que devient-il, le président Benesch?
Il se retire, il est bien sûr extrêmement éprouvé par la crise. Il ne reviendra à Prague qu'à deux reprises. pour les commémorations de la naissance de l'université Charles de Prague, qui est née en 1348, d'autre part pour les obsèques de son ministre des Affaires étrangères et ami Jan Masaryk, qui, dans des conditions qui n'ont jamais été vraiment explicitées, est tombé.
Belle énigme historique.
Est tombé de la salle de bain de son appartement du ministère des Affaires étrangères.
Eh oui, là on est déjà dans toute la, on va dire, dans tout le folklore soviétisant. Est-ce qu'on peut dire que Benesch était de toute façon trop malade pour exercer encore des responsabilités? Il va mourir très bientôt, au mois de septembre.
Au début du mois de septembre. Les témoins disent que il avait conservé toute sa lucidité. Et je pense que c'est vrai. En revanche, ses problèmes de santé ont complètement émoussé sa volonté. Et je crois que c'est là le poids de la maladie sur ses décisions, sachant que ses adversaires sont parfaitement au courant de son état de santé par un circuit complexe, mais ils savent exactement comment doser leur pression sur le président.
Alors maintenant, le président Benesch est mort. Nous n'avons vécu avec lui que les tout derniers mois, si je puis dire. Je vous propose de revivre l'ensemble d'une existence d'une grande richesse avec quelques coups d'éclat qui méritent absolument qu'on en parle.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du coup de Prague, avec votre invité Antoine Marès, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur d'Édouard Benesch, un drame entre Hitler et Staline aux éditions Perrin.
Alors nous allons venir à Hitler et Staline, mais avant ça, j'aimerais qu'on revive un peu l'existence d'Édouard Benesch. C'est d'ailleurs la seule biographie existante en français du personnage. Vous avez comblé un vide historiographique, Antoine Marès.
C'est la raison pour laquelle je me suis décidé à l'écrire, effectivement. Il y a quelques biographies en tchèque d'une nature un peu différente, mais c'est vrai que...
Et pourtant, Dieu sait que ce personnage a été francophile, nous allons avoir l'occasion de nous en rendre compte. Quelles sont ses origines?
Tout à fait.
Comment peut-on...
Alors, c'est un personnage assez fascinant par son ascension sociale. Il fait partie, il est le dernier enfant, le huitième enfant d'une famille de paysans de l'ouest de la Bohême.
Enfant, oui.
Qui, avec deux de ses frères, va faire des études supérieures. Ses frères seront instituteurs. L'un d'entre eux sera même homme politique, sénateur. Mais l'ascension sociale par l'école est une spécificité des Tchèques à la fin du XIXe siècle. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. On sort de la glèbe et immédiatement, on peut être projeté dans le monde intellectuel, dans le monde savant dans le monde politique. Alors très vite, ce jeune Edvard Benesch va être fasciné par la France, à tel point que il commence des études de romanistique à l'université Charles de Prague. Son but, c'est d'enseigner le français, en fait, dans le secondaire, hein, et il décide, quand il a 21 ans, de venir à Paris. Se frotter un petit peu à la ville Lumière, et là c'est un choc et c'est une il est marqué à vie par cette découverte. Il va devenir un francophile, certainement l'homme politique le plus francophile d'Europe centrale, et il va traduire ça dans le champ politique.
Avec une inspiration de cette espèce de radical socialisme qui domine la classe politique française de l'époque. Quelle est son inspiration politique? On n'a pas l'impression qu'il ait de très grande conviction. Ce n'est pas un idéologue, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, mais il a une sensibilité que je qualifierais de gauche générale.
On dirait de centre-gauche aujourd'hui, c'est ça, hein?
Oui, une sensibilité sociale, voilà. En particulier, une sensibilité aussi à la nécessité de développer une pédagogie de la nation. Et il se déclare marxiste quand il est jeune, quand il arrive à Paris. C'est Paris qui lui fait changer un petit peu d'idée et qui le fait se rapprocher de son maître, Thomas Garrigue Masaryk, qui sera le fondateur de la Tchécoslovaquie.
Et ça va dessiner en quelque sorte son parcours.
Absolument. C'est un choix, c'est un aiguillage majeur dans sa vie. En septembre 1914, il décide de suivre Masaryk dans la résistance à l'Autriche-Hongrie. Il considère que l'Autriche-Hongrie n'a plus de raison d'être à partir du moment où elle s'est alliée avec l'Allemagne et par conséquent qu'il faut la détruire. Et il partira et quittera l'Autriche-Hongrie un an plus tard pour venir en France et contribuer
à la création de ce qu'on va appeler la Tchécoslovaquie.
Absolument.
Qui est un État fabriqué, si je puis dire. Issu en tout cas de la paix de 1918-19.
Oui, je dirais plutôt que c'est un avatar du royaume de Bohême, qui est beaucoup plus ancien et qui s'est étendu vers l'Est, vers la Slovaquie et l'Ukraine subcarpatique, pour des raisons conjoncturelles.
Quelles sont les responsabilités officielles de Benesch à ce moment-là? On est dans les années 20.
Alors, Benesch a d'abord été le secrétaire général du comité national tchécoslovaque pendant la guerre et à l'issue de la guerre, en octobre 1918, il devient ministre des Affaires étrangères et il restera 17 années
incroyable
à la tête de...
Jusqu'en 1935.
Jusqu'à son élection comme président de la République en décembre 1935.
Oui, donc c'est le grand diplomate de l'entre-deux-guerres de ce nouvel État tchécoslovaque.
Oui, je dirais même plus. Je dirais que c'est une figure européenne parce qu'il est extrêmement présent à la Société des Nations. Il est un apôtre de la sécurité collective. C'est un médiateur.
Il croit à la SDN, à la Société des Nations.
Il croit profondément à la Société des Nations. On le surnomme le commis voyageur de la paix. Et les caricaturistes le représentent avec une valise collée d'étiquettes. Ses déplacements à travers toute l'Europe en train ou en automobile, mais surtout en train, en font un homme moderne déjà.
Est-ce que cette francophilie dont vous nous parliez tout à l'heure a joué un rôle sur les orientations de la diplomatie tchèque pendant ces années-là?
Fondamentalement. Fondamentalement, mais aussi parce que, au départ, je dirais que c'est un peu par défaut. Une fois que la Russie est sortie du jeu en 1917 avec la révolution d'octobre, une fois que les États-Unis se sont retirés, la France devient le pivot essentiel de cette politique étrangère, tout comme la Société des Nations et la Petite Entente, qui est une alliance avec la Roumanie et la Yougoslavie.
Alors à la mort de Masaryk, le vieux Masaryk, il devient à son tour président de la République. Quand vous parliez d'ascension sociale, c'est quand même assez extraordinaire toute cette histoire.
Avant même la mort de Masaryk, puisque Masaryk meurt en 1937.
Oui, lui est élu un an et demi plus tôt.
Voilà, en décembre 1935, mais Masaryk a 85 ans, il n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir, donc Benesch, avec difficulté, le remplace à la tête de l'État. Et va continuer, comme président de la République d'ailleurs, à diriger la politique étrangère de 1935 à 1938 pour se retrouver en bout de course face à la tragédie de Munich qui va être le pivot de sa vie.
Alors il faut revenir un instant sur ces accords de Munich et sur la façon dont ils ont été vécus en Tchécoslovaquie.
Alors les accords de Munich qui sont signés dans la nuit du 29 au 30 septembre 1938... Oui. Par Mussolini, Hitler, Chamberlain et Daladier, oui. Cèdent une partie, sans la présence des Tchécoslovaques, cèdent une partie du territoire de la Tchécoslovaquie à l'Allemagne.
C'est la fameuse question des Sudètes.
Voilà, dans l'espoir que cette cession va assurer la paix. Ce qui est une illusion. Et ce que Benesch dit à l'époque de façon extrêmement lucide. Il dit à ses interlocuteurs, notamment français et britanniques, « Vous ne faites que reporter la guerre un peu plus loin et vous la ferez dans des conditions qui seront plus mauvaises que celles que vous auriez si vous la déclariez immédiatement. »
Comme on dit ordinairement, c'est reculer pour mieux sauter, en fait.
Absolument.
Lui en est conscient. Certains des hommes qui étaient présents à ces négociations, je pense à Daladier, en étaient conscients aussi. Simplement, ils n'avaient peut-être pas le courage d'aller au bout de cette lucidité.
Certainement. Daladier, qui connaissait la Tchécoslovaquie parce qu'il y était allé au début des années 20 dans le cadre d'un congrès européen radical, avait plutôt de la sympathie pour la Tchécoslovaquie. Bon, tout le monde sait bien à quel point il était honteux de signer ces traités.
On peut imaginer que Hitler n'aime pas beaucoup M. Benesch dans ces conditions, étant donné
ça. Pas du tout. Hitler non seulement n'aime pas Benesch, mais déteste la Tchécoslovaquie. On a deux explications. On a une explication concernant sa propre trajectoire quand il était à Vienne. Il a vraisemblablement été confronté à des Tchèques lors de ça.
Oui, il y a toujours une part biographique dans
de son séjour viennois, absolument. Mais aussi parce que la Tchécoslovaquie incarne les traités de paix. Et que par conséquent, la destruction, le relèvement d'Allemagne passe par la destruction des traités de paix et par conséquent par la destruction de la Tchécoslovaquie.
Alors ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'adversaire, c'est l'ennemi allemand. Mais il y a les Russes et les Soviétiques qui sont là aussi. Quelle est l'attitude de cet homme de gauche qu'est Benesch à l'égard de Staline dans cette montée des périls? On est juste avant la Seconde Guerre mondiale.
Je dirais qu'à l'égard de la Russie et de l'Union soviétique, Benesch a été un homme pragmatique. Un moment même, pendant la conférence de la paix, il a accepté que les légions tchécoslovaques qui avaient été formées en Russie interviennent en Russie, mais à condition que cela s'intègre dans un dispositif qui aurait quelque chance d'aboutir. Benesch a toujours poussé au rétablissement de relations avec l'Union soviétique, mais il avait pour adversaire certains partis qui refusaient absolument cette reconnaissance. Il y avait la pression de la France, bien sûr, son allié privilégié, la pression de ses alliés roumains, voire yougoslaves, et ce qui fait que finalement le lien n'a été rétabli qu'en 1935, quand la France, en mai 1935, signe le pacte franco-soviétique. Et Benesch va suivre. Il voit, mais comme certains Français, comme Louis Barthou, par exemple en 1934, il voit dans l'Union soviétique un éventuel contrepoids à la montée de Hitler.
Il se laisse d'une certaine manière assez charmé par Staline. On voit bien ça lorsqu'on vous suit dans la vie de Benesch. Il est assez séduit par le discours de Staline et par tous les égards dont on l'entoure aussi, il faut le dire.
Certainement, quand il se rend à Moscou en 1935, il est accueilli comme un chef d'État qu'il n'est pas encore.
Mais oui.
Ça, c'est certain. Mais je pense que ça relève plus d'une vision géopolitique que je rapprocherais un petit peu de celle du général de Gaulle.
Oui.
Voyant dans la Russie plus la grande puissance du 19e siècle, la grande puissance géopolitique.
Au-delà de l'état politique. Hein, voilà.
Au-delà de l'idéologie.
De l'idéologie. Ce Benesch va donc souffrir parce que son pays est directement menacé par les nazis, indirectement par les soviétiques. Ils vont finalement mettre le grappin dessus. Est-ce que tout ça n'a pas eu des conséquences sur sa santé, justement, sur cette dégradation de son état? Est-ce qu'il n'a pas, pardonnez-moi l'expression, mais est-ce qu'il n'aurait pas somatisé un peu pendant l'époque de la Seconde Guerre mondiale?
Je pense que d'abord, il a eu un choc terrible au moment de Munich. Parce que Munich, c'était l'effondrement non seulement la Tchécoslovaquie, mais également de la démocratie à laquelle il était tellement attaché. Et c'est vrai qu'il aura du mal à remonter de cette épreuve. Et il va se radicaliser après ce choc de Munich. Et je pense que l'attitude de Benesch à l'égard de l'Union soviétique est directement liée à ce choc de Munich.
Cette mesure, cette pondération, cette limpidité que vous pouvez percevoir dans les propos d'Antoine Marès, ils sont dans le style de sa belle biographie publiée chez Perrin, Edvard Benesch, un drame entre Hitler et Staline. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Dans un court instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Sylvain sur les origines du service militaire.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Sylvain et nous envoyez sa question via la page Facebook de l'émission. Et il souhaiterait connaître les origines du service militaire.
Évidemment, le service militaire, c'est la conscription, c'est la révolution. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a eu, de façon sporadique dans l'histoire, des tentatives d'enrôlement d'une population civile dans des armées. Je pense évidemment, parce que ça me concerne, mais à l'ordonnance de Louvois en 1688, qui désignait 50 hommes par paroisse pour venir renforcer l'armée royale en cas de besoin. Au début de la Révolution, lorsque la patrie est en danger, vous savez, rappelez-vous la bataille de Valmy, etc., on a intégrer sous les drapeaux tous ceux qui pouvaient. Ça va fonder la conscription. Cette conscription, elle est instituée précisément en 1798. C'est la loi Jourdan qui instaure la conscription obligatoire et universelle. On va raffiner tout ça en 1804 au moment de l'Empire avec l'instauration d'un tirage au sort. Vous savez, sur 100 conscrits d'un même canton, on en tirait 35 au sort qui allaient s'engager dans les armées impériales. Bon, cette conscription, elle est abolie au moment de la Restauration et le service militaire moderne, il va revenir sous le gouvernement de Maurice Rouvier. C'est la loi du 21 mars 1905 qui instaure un service militaire de 2 ans. Il sera ensuite, vous savez, de 3 ans avec la loi des 3 ans en 1913 et puis il reviendra de 2 ans, etc. Il baissera petit à petit, 12 mois en 1970, jusqu'à sa suppression pure et simple en février 1996. Et ça, c'était Jacques Chirac.